Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Apolline Verlon.
Même si l'arabe est la langue de mes colères, le français est la langue de mes rêves.
Une terre, un auteur.
Bonjour à toutes et à tous. Et cette semaine, c'est l'écrivain Berouk qui me reçoit chez lui à Nouakchott pour un grand entretien où l'auteur mauritanien raconte son lien puissant avec la langue française dans laquelle il écrit tous ses livres. Portrait d'un nomade sage et souriant. Bonjour Berouk.
Bonjour.
Merci beaucoup de nous recevoir ici chez vous à Nouakchott, cette ville où vous habitez depuis quelques années mais dont vous n'êtes pas originaire puisque vous êtes né à Attar dans le nord du pays aux portes du désert du Sahara qui est un personnage très important dans toute votre œuvre littéraire. Est-ce que vous vous souvenez de votre première lecture, de vos premiers contacts avec la littérature dans votre enfance?
Oui, je me souviens très bien. Moi, je suis fils d'un enseignant, fils d'un instituteur qui a enseigné le français aux petits-enfants. À la fin des années 40 jusqu'aux années 50, il était instituteur. En même temps, il était fortement indépendantiste et il aimait beaucoup la littérature, surtout la littérature française. Il pensait aujourd'hui, personne ne le pense aujourd'hui, que si on enseigne Rousseau, Voltaire aux enfants, personne n'acceptera plus jamais d'être esclave de n'importe qui. Pour lui, la littérature française, celle du 19e siècle, est une littérature de liberté. Et à 12-13 ans, il m'a donné un livre à lire pendant les vacances. Parce que ma jeunesse était entre la ville, les oasis, la badia, le désert. À chaque période, on sortait dans le désert ou dans les oasis. Puis je revenais pour l'école. À l'école, toujours en retard, bien sûr. Un mois après l'ouverture, mais ça importait peu pour les miens.
Donc, parce que vous étiez nomade, c'est ça?
Non, je n'étais pas nomade. Nous étions des citadins, mais des citadins attachés encore à la vie et aux valeurs nomades. Parce que traditionnellement, je suis une famille plutôt commerçante, plutôt aisée. Donc, on n'a pas eu à souffrir des affres du désert. Mais il y a un attachement profond à ce désert et à nos origines du Sahara. Et je disais donc, il m'a offert ce livre-là pendant les vacances. Il m'a enjoint de le lire avant la fin des vacances. C'était un gros livre. C'est Les Misérables de Victor Hugo. Et je crois que c'était une édition pour enfants, parce que je me rappelle, il était beau, avec une couverture bleue. Et j'ai mis tout l'été à le lire pendant les vacances, sous les cases pendant l'OSS et sous nos tentes pendant la badia. Et quand je suis revenu, je l'ai lu. Et j'en suis sorti avec un amour immodéré de Victor Hugo et de la langue française aussi.
Donc, vous découvrez la littérature française, Victor Hugo, à 13 ans. Après, vous venez au lycée à Nouakchott. Et là, où est-ce que vous allez trouver les livres?
Au centre culturel français. D'ailleurs, quand j'étais au collège d'Attar, on est bien content de venir à Nouakchott pour quelques jours. On aimait bien passer au centre culturel français et voler quelques livres.
Ah, vous voliez les livres?
Ah oui, parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen d'en avoir. On ne pouvait pas en acheter. Et on aimait beaucoup la lecture. Il n'y avait pas de possibilité. Et on volait les livres au centre culturel français.
On ne pouvait pas les emprunter tout simplement?
Non, on n'est pas à Nouakchott. On n'habite pas à Nouakchott.
Ah oui.
On habite très loin. Hein, on ne peut pas les emprunter. Et la confiance ne régnait pas véritablement, il faut dire.
Et vous vous souvenez quels livres vous avez un peu emporté?
De tout genre. Mais je me rappelle bien avoir volé le Comte de Monte Cristo.
D'Alexandre Dumas.
D'Alexandre Dumas. Et j'avais déjà lu Les Trois Mousquetaires à Attar. Alors je n'ai pas raté l'occasion pour voler le Comte de Monte Cristo. Et je me suis régalé quand je suis revenu.
Donc Berouk, on continue avec vous vos premières années, vos jeunes années, grand lecteur. Néanmoins, vous n'êtes pas tout de suite écrivain, vous vous dirigez vers des études de droit et ensuite vous fondez le premier journal indépendant en 1988, Mauritanie demain. À quel moment avez-vous eu envie de devenir écrivain?
Je crois que j'ai toujours, même dans ma prime jeunesse, je crois que j'ai toujours eu envie d'être écrivain. Parce que j'adore lire les histoires et j'adore en raconter autour de moi. Et je me rappelle quand j'étais très jeune, quand on sortait de la ville, quand on sortait dans le désert, il y avait toujours un berger qui nous racontait les histoires à nous, petits citadins. Citadins, entre guillemets, qui venaient et on rêvait déjà. Et je rêvais d'être lui. Et j'ai écrit des nouvelles très tôt.
Pour revenir à ce que vous nous racontiez là à l'instant, c'était des histoires orales, c'était un peu des contes, c'était en quelle langue?
C'était en Hassania, ça veut dire l'arabe local. En Hassania, mais en Hassania pur, le Hassania du nomade. Pas celui que nous avons un peu façonné dans les villes et qui emprunte beaucoup aux autres langues, à l'arabe, comme, à l'arabe classique comme aux autres langues. En Hassania du désert, en Hassania d'avant. Et il l'a raconté d'une manière, pour moi c'était extraordinaire la manière dont il l'a raconté. Et les mots que nous découvrions aussi avec lui, quelques nouveaux mots, quelques nouveaux vocables, qui paraissaient pour nous mystérieux.
C'est aussi la place de la poésie, j'imagine.
Oui, la poésie est très très présente dans la société nomade. Elle est très présente. Les gens s'exercent à la poésie dès le plus jeune âge. Et un jeune homme qui veut se faire bien voir par les filles doit se montrer poète. Même s'il peut emprunter un poème à un ami. Et ça fait même partie de l'élévation sociale des petites gens.
Être poète,
on pourra entrer en contact avec les chefs tribaux, avec les émirs, on pourra changer de statut parce qu'on est poète. Et tout le monde dans la société bedouine s'essaye à être poète. C'est pourquoi à un certain moment on a parlé du peuple de millions de poètes, c'est exagéré. Mais avant, tout le monde s'essayait d'être poète. Des petites poésies par là, pas toujours. Mais il faut bien avoir dit un petit poème dans sa vie avant de mourir.
Et en même temps, vous, Berouk, à ma connaissance, vous n'avez jamais publié de poésie?
Non. Dans mes romans, on trouve parfois quelques fragments poétiques.
Oui, bien sûr.
Mais ceux-là sont de ma création.
Est-ce que ça veut dire que la poésie, c'est quelque chose qui se transmet par la voix et moins par les publications?
Pour moi, je ne fais pas de forte distinction entre la poésie et la prose. Un roman, c'est aussi de la poésie et il doit être quelque part poésie. Ce qui fait la poésie, c'est les mots et c'est le rythme. Et on ne peut pas, à mon avis, je n'ai pas envie d'écrire un roman où il n'y a pas de rythme et de la poésie. Pour moi, c'est essentiel. Et on me pose souvent la question, votre écriture est très poétique, souvent poétique. Je dis oui, parce que pour moi, la littérature, c'est la poésie. Dans ma culture, il n'y a pas de théâtre, il n'y a pratiquement pas de roman. On n'a que la poésie. Et c'est pour nous, culture, littérature veut dire poésie.
Donc vous êtes un amoureux des mots, vous commencez d'écrire assez vite et vous publiez votre premier roman en 2006, Et le ciel a oublié de pleuvoir. C'est un texte qui est écrit en français, qui n'est pas votre langue maternelle, Berouk. Pourquoi?
Oui, c'est vrai, je vous ai dit que le français m'a choisi quand j'étais assez jeune. Dans le bled où j'avais, il n'y avait pas beaucoup de livres. Même en arabe, il n'y avait pas de livres. Et j'ai découvert les premiers rêves en littérature française. Et j'ai très tôt aimé lire, on lisait à l'époque, on lisait des bandes dessinées, on lisait plein de choses, tout ce qu'on trouvait. Même les étiquettes sur les... On récitait ça, les étiquettes sur nos premières cigarettes. On lisait les étiquettes qu'il y avait écrit là-dessus. On lisait tout. Et comme je vous dis, quand quelqu'un allait à Nouakchott, on lui disait, s'il te plaît, si tu peux amener un livre. Et quand ton livre vient, il va faire le tour.
Donc c'est parce que vous avez découvert la littérature en langue française que vous vous êtes mis à écrire en français?
Oui, c'est assez, oui. Et le français reste la langue de mes... même si l'arabe est la langue de mes colères, le français est la langue de mes rêves.
L'arabe, la langue de vos colères, et le français, la langue de vos rêves.
Voilà.
C'est beau, ça.
Voilà.
Oui, parce que c'est l'arabe, votre langue maternelle.
Oui. Les gros mots, les insultes, je les dis seulement en arabe.
D'ailleurs, ce qui est très intéressant, Berouk, c'est que souvent, vous vous définissez comme franco-scribe.
Oui, je me suis défini comme franco-scribe parce que je me dis qu'en fait, je me posais la question, est-ce que je suis véritablement francophone ? Parce que je ne parle pas français dans ma famille, je ne parle pas français avec mes enfants, je ne parle pas français dans la rue, je rencontre rarement des gens avec lesquels je parle français, mais je rencontre le français chaque soir en lisant. Et en réalité, j'ai appris le français dans les livres. J'ai un ami qui est français qui me dit chaque fois, t'as un accent terrible, tu ne sais pas prononcer, tu dis lyncher au lieu de lyncher, ainsi de suite. Je lui dis, mais c'est normal, j'ai appris le français dans les livres. Toi, tu as appris dans les banlieues ou les métros, ce n'est pas la même chose.
Donc le français, c'est un peu votre lieu d'intimité et de lecture et d'écriture.
Absolument, c'est mon lieu d'intimité et d'évasion.
Donc Berrouk, vous êtes un écrivain de langue française, mais en même temps, vous êtes resté très attaché à vos racines, au patrimoine de votre pays, la Mauritanie. Et d'ailleurs, je crois que vous avez mieux fait connaître le mdé, qui est cette forme de gospel mauritanien.
C'est une musique, j'ai beaucoup sur cette musique. Et d'ailleurs, avec des amis, nous avons organisé un festival de mdé. À Attar. Et nous avons. Maintenant, le maître est devenu accepté. Parce qu'il était considéré comme un art secondaire, comme une musique secondaire. C'était en fait. Le maître est à l'origine une musique d'esclaves. Ils chantaient leur douleur, leur misère, chantaient Dieu en même temps. Et moi, j'ai beaucoup aimé cette musique. Et avec des amis, nous avons entrepris de lui donner plus de résonance. Et je crois qu'elle en a eu. Mais c'est un très bel art, c'est une musique sacrée. De chez nous, c'est une musique forte, en même temps rythmée, très simple et très profonde.
Est-ce que vous avez un titre à nous conseiller qu'on pourrait écouter maintenant dans l'émission et faire découvrir aux auditeurs du monde entier ?
Je vous conseille un chanteur local qui s'appelle Brour.
Et il a un titre en particulier ?
Tous ces titres sont bons, vous les trouvez. Parce que le maître, ce n'est pas, ça ne s'invente plus. C'est des paroles anciennes qu'on réduit tous les voix. Mais le répertoire est tellement vaste qu'on trouvera toujours, on entendra toujours quelque chose de nouveau.
Bon, on va écouter ça et puis on se retrouve dans quelques minutes après cette pause musicale. À tout de suite, Berrouk.
Allez, à tout de suite.
Vous êtes bien à l'écoute de Littérature sans frontières sur RFI et l'on se retrouve chez Berrouk près de Nouakchott où l'écrivain mauritanien nous a accueillis pour ce grand entretien exceptionnel. Donc après l'enfance dans le désert, la découverte de la langue française, le journalisme, voici le moment de parler avec vous un peu plus en profondeur de vos livres qui sont 8 à ce jour. Et d'ailleurs, puisque nous sommes chez vous et dans cette pièce où il y a une bibliothèque, où il y a un bureau, est-ce que c'est ici que vous écrivez, Berrouk ?
Pas toujours. J'écris souvent au bord de la mer et parfois dans un, dans un hôtel local un peu éloigné. Vous savez, je loue, j'écris là-bas, ou à Océanie, au bord de la mer.
Effectivement, qui est un site magnifique.
C'est les deux endroits où j'écris généralement. Mais surtout le soir, très tard, parfois je m'abrite ici et j'écris.
Ce qui est intéressant, c'est que vous qui êtes un homme du désert, vous avez besoin de la mer pour écrire.
Oui, je confonds toujours la mer et le désert. Pour moi, c'est les mêmes intensités. J'adore la mer. J'adore regarder la mer. Et j'adore contempler le désert au-dessus d'une dune. C'est la même forme d'adoration. Je ne travaille pas seulement quand je vais au bord de la mer, à Océanie. Je ne travaille pas seulement. Parfois, pendant une heure de temps, je ne fais que regarder la mer.
Parce que c'est beau.
Parce que c'est beau, parce que je m'y plonge, parce que j'invite mille rêves, mille sentiments, mille idées.
Mais du coup, vous écrivez à la main ou sur un ordinateur ?
Non, j'écris maintenant sur un ordinateur. Mon premier roman, je l'ai écrit à la main. Maintenant, j'écris sur ordinateur.
Et parlons encore un instant de cette bibliothèque là qui est juste à côté de nous et il y a un grand nombre de livres. D'où ils viennent ces livres ?
La majeure partie de ces livres viennent de la rue.
De la rue ?
Voilà.
Vous les avez achetés dans la rue ?
Je les ai achetés dans la rue.
À Nouakchott ?
À Nouakchott, pour la plupart. Certains, je les ai achetés quand je voyage, tout de mon voyage, mais la majorité, et j'ai peut-être les meilleurs.
C'est quoi les meilleurs ?
Ça veut dire les classiques que j'ai ici, les livres qui datent de 50 ans, 40 ans, les vieilles éditions. J'ai tout acheté dans la rue.
Et ça existe encore, ça, aujourd'hui ?
Oui, il y en a un. Mais c'est de moins en moins achalandé, il y a de moins en moins de livres.
Mais il y a des livres...
J'ai fréquenté le même vendeur de rue pendant 40 ans. Il est décédé il y a quelques mois.
Ah, vous devez
c'est
être triste.
Et je l'ai fréquenté pendant plus de 40 ans.
Mais il n'y a pas de librairie, sinon ?
Si, il y a des librairies, mais elles sont extrêmement chères. Et je ne trouve pas ce que je cherche. Les librairies ici offrent surtout les livres qui sont à la mode, les livres d'évasion, les livres... on trouve beaucoup de littérature de gare ici. Parce que les gens aujourd'hui ne lisent plus. Les gens ici ne lisent plus, malheureusement.
Ni en français, ni en arabe ?
Ni en français, ni en arabe.
Vos livres, Berouk, je le disais, 8 publications à ce jour, un recueil de nouvelles, 7 romans, du premier « Et le ciel a oublié de pleuvoir » jusqu'à le plus récent « Sahara », en passant par « Le tambour des larmes »,« Je suis seule » ou encore « Paria ». Quel est le point commun entre tous ces livres, Berouk ?
C'est moi. C'est moi, évidemment. Et c'est mon milieu, c'est mon environnement, c'est ma nature, c'est le désert, c'est le Sahara. Et c'est peut-être l'envie pour des milliers de gens de s'en sortir, de vivre mieux.
Le Sahara, et puis cette tension toujours entre le désert, la ville, les traditions et la modernité, ou c'est trop schématique ?
Oui, c'est un peu peut-être, mais cette déchirure-là est incontestable. C'est déchirant. Moi, par exemple, quand je voyage, je ne me sens pas... Le costume occidental, je ne sens pas le confort. Et il m'arrive, quand je suis, par exemple, en France, de prendre un train en bobo. Mais je ne fais plus parce qu'on me regarde, parce que je n'aime pas paraître différent, ainsi de suite. Mais le confort, pour moi, c'est ça. J'aime bien l'Europe, j'aime beaucoup la France, j'aime surtout beaucoup la province française. Si je me sentais capable d'être toujours en boubou en France, ce sera parfait. Et c'est voir les deux à la fois.
Oui, vous êtes les deux à la fois,
en fait. Je suis les deux à la fois.
Bien sûr.
Mais je ne me vois pas monter la tour Eiffel avec un bout.
Quels sont les sujets qui vous tiennent à cœur, Berouk ?
Je ne sais pas, parce que quand j'écris, je ne pense pas à un sujet particulier, je pense d'abord à une histoire. Et une histoire, elle a un environnement, elle a un milieu, elle a des personnages. Et de là viennent des sujets divers.
Comment elles viennent, les histoires ?
Elles viennent naturellement, elles viennent au réveil, elles viennent quand on est endormi, elles viennent dans nos rêves, elles viennent quand on voit un enfant passer, elles viennent quand on marche sur une dune, elles viennent au bord de la mer, elles viennent... partout et n'importe comment. Moi, dernièrement, j'ai arrêté tout un travail que j'ai mené depuis 3 mois. J'ai arrêté net pour écrire une nouvelle histoire qui me passionnait. Je ne peux pas me retenir. J'aime cette histoire-là et celle-là que je vais écrire.
Donc c'est la littérature qui vous appelle ?
C'est la littérature qui m'appelle, mais c'est peut-être, moi je me dis, peut-être un moi profond, je ne sais pas, un sentiment. Parfois j'ai peur que quelque chose m'échappe. Parce que je crois qu'écrire, c'est aussi lutter contre le temps, contre les années, contre le temps qui passe. Chercher un bonheur, peut-être l'histoire, peut-être illusoire, mais les chercher tout de même. Ce bonheur qu'on trouve dans l'écriture d'une histoire qu'on aime et qu'on s'en raconte avant de l'offrir au lecteur. On s'en délecte, nous d'abord, avant de l'offrir au lecteur.
Dans vos romans, on croise des mendiants, des courtisanes, des femmes bafouées, des homosexuels, des criminels. Pourquoi ces personnages vous inspirent, Berouk ?
Je l'avoue, j'ai toujours eu une certaine attirance pour les marginaux. J'ai toujours voulu me pencher sur la vie des marginalités, des gens qui sont à côté. C'est peut-être curiosité malsaine. C'est peut-être chercher l'humanité, chercher une autre partie de moi-même, parce que tous ces gens-là sont une partie de nous-mêmes. Mais il y a aussi que tout simplement, tous ces personnages existent dans la vie réelle. Ici, on est un pays musulman, on est un pays très prude, la pudeur est de mise, mais en réalité, il existe des homosexuels, ça ne manque pas à Nouakchott. Et ils sont souvent invités dans des mariages, parce que les gens qui jouent au tam-tam sont généralement des homosexuels ici. Et ils sont plus ou moins acceptés. Ils sont acceptés par la société. Il n'y a pas d'injure, il n'y a pas de... Ils vivent comme tout le monde, ils ont des amis. C'est vrai que leurs amis sont souvent des femmes, mais ils ont beaucoup d'amis. Ils sont dans tous les milieux aisés. Ils sont dans tous les milieux. Même si, officiellement, même si dans les presses des mosquées, ce sont des gens à rejeter. Ils sont là. La prostitution est présente à Nouakchott, bien sûr. Mais je ne peux pas croire que toutes les prostituées sont destinées à l'enfer. Je ne peux pas l'accepter.
Donc vous essayez de les sauver ?
Moi, je n'essaie de sauver personne. J'essaie de me pencher. Je fais un travail littéraire. Je ne fais pas un travail d'association. Mais je dis que je sens souvent les douleurs de la marginalité, je les sens parfois dans mon cœur, dans ma chair. Parce que j'imagine l'exclusion. J'imagine ce que ça doit être dur de vivre dans un pays où on est exclu. Où on est destiné aux fourches de Satan.
Et les femmes à qui vous donnez la parole dans vos romans, ces femmes qui ont été violées ou qui sont, à cause de la tradition, obligées d'abandonner leurs enfants, ou celles qui, pour survivre, deviennent prostituées, qu'est-ce que vous voulez dire avec ces portraits de femmes ?
Mais je crois que les femmes que j'ai décrites dans mon roman, que je présente dans mes romans, sont souvent de fortes personnalités, sont des personnes fières, pas qui acceptent.
C'est vrai.
Je préfère la femme ou l'homme qui refuse à celui qui se plie. Je préfère respecter quelqu'un que de le plaindre. Et je respecte ces femmes qui refusent depuis Antigone. Et elles ont toujours de la place dans mes romans. En particulier dans Sarah et dans Le tambour des larmes.
Oui, Sarah, elle refuse en fait le déterminisme social, le poids des traditions pour choisir sa propre vie, même si ça choque une partie de la société mauritanienne.
Oui, même si elle s'est libérée elle-même de l'intérieur, elle a libéré son esprit, elle est passée par beaucoup de misère, beaucoup de... elle a confronté la vie, mais elle s'est assumée dans sa différence. Mais elle a retrouvé l'amour, un amour inattendu, et qui est partagé par quelqu'un qui est tout à fait éloigné d'elle. Par une espèce d'ascète, de chef de confrérie ascétique. Et c'est tout son contraire. Et pourtant, ils sont tombés amoureux l'un de l'autre. Ils n'ont pas la même conception peut-être de l'amour.
Ni de la religion.
Surtout pas de la religion. Mais il est allé au-devant d'elle quand elle est allée au-devant de lui.
Alors justement, parlons-en de religion, parce qu'il y a ce roman magnifique qui s'intitule « Je suis seul », qui est un roman sur l'extrémisme religieux au Sahel. C'est un roman, je crois, au début, que vous ne vouliez pas écrire, Berouk, mais finalement, vous l'avez fait. Pourquoi ? Parce que tout ce qui touche votre pays vous concerne ?
Oui, au début, je ne voulais surtout pas faire un roman sur l'islamisme, sur les djihadistes. C'était tellement à la mode, tout le monde en parlait. Et je ne voulais pas participer à la crier, quoi. Et puis, je me dis que parfois, des gens qui écrivent ne connaissent rien de la situation, ni du Sahara, ni de l'islam, ni de rien du tout. Et vous les voyez écrire un roman sur l'islam. Et vous voyez plein de choses étonnantes pour vous. Alors, enfin, je me suis dit, c'est dans mon environnement, c'est dans la région qu'ils vivent, c'est ma religion. Donc, il faudrait bien que je prenne parti. Et j'ai pris parti en écrivant « Je suis seul ». Mais il y a quelque chose de fondamental dont je suis sûr, c'est que je présente le djihadisme d'aujourd'hui dans tout ce qu'il a d'absurde, mais je n'oublie pas que ce n'est pas un phénomène nouveau, qu'à chaque période difficile de l'histoire apparaissent des mystiques libérateurs, entre guillemets. On a eu les Almoravides, on a eu les Almohades, on a connu beaucoup.
Mais qu'est-ce que vous vouliez dire avec ce roman, Berouk ? Et à qui s'adressait-il d'ailleurs ?
Je ne sais pas à qui il s'adresse, parce que ça s'adresse peut-être à moi. Mais l'essentiel est de représenter ce cas à la fois d'injuste, les idées rétrogrades portées par les islamistes, et aussi l'injustice étatique, des forces étatiques, des forces de l'État. Cette ville-là, elle a subi deux chocs. Elle a subi d'abord le choc d'une classe politique qui ravage le pays. Et puis, elle a subi les islamistes. C'est vrai, moi, je préfère, comme l'auteur, je préfère les corrompus aux islamistes.
Ah bon ?
Oui. Mais il reste qu'on devrait se passer de tout ce monde-là. Qu'on devrait bien pouvoir s'en passer. Si on veut être heureux. Voilà.
Merci beaucoup, Berouk.
Je vous remercie.
Pour toutes vos paroles et votre accueil ici chez vous, dans votre antre, avec vos livres, près de Nouakchott, en Mauritanie, où nous venons de passer un moment merveilleux. Merci encore.
J'espère bien. Merci beaucoup. Merci à vous.
Littérature sans frontières. Catherine Frujon-Toussaint. Apolline Verlon.
Vous pouvez réécouter cette émission sur le site rfi.fr en cliquant sur l'onglet « Podcast ». Et pour ne manquer aucun numéro de votre magazine, vous pouvez vous abonner à Littérature sans frontières dans votre application préférée et nous laisser un commentaire.